crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous sommes au musée Picasso à Paris, un musée rénové, agrandi, élargi, avec un nouvel accrochage somptueux de la collection. Et pour cette occasion exceptionnelle, nous avons choisi, dans la collection du musée, de vous parler d'une œuvre étrange, une œuvre particulière qui appartient à ce qu'on appelle la période bleue de l'artiste. Il s'agit de la Célestine, une huile sur toile de 74 cm de haut par 58 cm de large, réalisée en mars 1904 par Pablo Picasso. Picasso, comment ajouter quelque chose à ce nom qui a révolutionné l'art moderne au gré de ses styles? On dit Picasso, mais il y en a 30 au musée que nous pouvons voir et découvrir en ce moment. Ce novateur donc, cet acharné de la peinture, qui au début de sa carrière produit à Barcelone des œuvres étranges et mélancoliques, puis à ses débuts à Paris, une peinture qui s'attache à des personnages sur fond bleu, expression de la désolation spirituelle, dit-on, provoquée, soi-disant, par le suicide de son ami Carlos Casagema. En 1904 sera l'année où Picasso viendra s'installer à la Butte Montmartre dans l'atelier du 13 rue de Ravignan et qui sera nommé donc le bateau lavoir. 1904, c'est aussi l'année charnière de l'abandon du bleu pour le rose. Picasso s'entoure de nouveaux amis. Il renoue avec Max Jacob, qu'il avait connu chez Vollard, se lie avec André Salmon et à l'automne rencontre Fernande Olivier qui sera sa compagne pendant 7 ans. C'est en 1905 qu'il fera la connaissance d'Apollinaire, le célèbre poète et critique d'art qui deviendra son ami, grand admirateur et défenseur de Picasso jusqu'à sa mort. Guillaume Apollinaire, donc, notre regardeur.
On a dit de Picasso que ses œuvres témoignaient d'un désenchantement précoce. Je pense le contraire. Tout l'enchante. Et son talent incontestable me paraît au service d'une fantaisie qui mêle justement le délicieux et l'horrible, l'abject et le délicat. Son naturalisme amoureux de précision se double de ce mysticisme qui, en Espagne, gît au fond des âmes les moins religieuses. À Rome, au moment du carnaval, il y a des masques, Harlequin, Colombine ou Cuoca Francese, qui, le matin, après une orgie terminée parfois par un meurtre, vont à Saint-Pierre baiser l'orteil usé de la statue du prince des apôtres. Voilà des êtres qui enchanteraient Picasso. Sous les oripeaux éclatants de ces saltimbanques sveltes, on sent vraiment des jeunes gens du peuple, versatiles, rusés, adroits, pauvres et menteurs. Ces mères crispent des mains fines, comme en ont souvent les jeunes mères de la classe populaire, et ces femmes nues sont écussonnées de la toison que dédaignent les peintres traditionnels et qui est le bouclier de la pudeur occidentale. Guillaume Apollinaire, 1905.
Pour parler de la Célestine, je reçois donc mes deux invités, dont un grand artiste, Alain Séchas. Bonjour Alain Séchas.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, très bien.
Votre œuvre est diverse, peut-être différemment de celle de Picasso, mais vous êtes aussi bien sculpteur, peintre, grand dessinateur. Vous faites parfois des dessins d'animation, vous faites des grandes installations, vous utilisez la vidéo, vous faites des combinaisons d'œuvres qui... parfois mélange des œuvres anciennes que vous empruntez pour les installer à l'intérieur de vos expositions. Laurent Lebon, le directeur du musée Picasso, a à plusieurs reprises présenté votre travail dans ses œuvres antérieures et parfois attaché à un personnage curieux qu'on a appelé le chat, mais parfois attaché à des histoires traditionnelles de la peinture liées au mouvement, aux positions, aux compositions. Vous avez traversé des périodes extraordinairement différentes et donc je me réjouis de parler avec vous de Picasso et particulièrement de cette œuvre, la Célestine, que nous allons examiner ensemble. J'ai auprès de moi le directeur du musée Picasso et j'en suis très heureux, mon cher Laurent Lebon, qui a été celui qui a mené à bien l'extraordinaire chantier du centre Pompidou-Metz et y a fait des expositions inoubliables comme chef-d'œuvre. Auparavant, il était conservateur en chef au centre Georges Pompidou. Il avait fait cette exposition inoubliable qui s'appelait Dada. Il avait fait aussi une exposition parade. Et effectivement, comme nous le disions à l'instant, vous aviez montré il y a quelques années le travail d'Alain Séchas en Turquie, entre autres, et à Versailles. Aujourd'hui, nous parlons donc de la Célestine, un tableau peint à Barcelone au début du printemps 1904, quelques mois avant son retour définitif à Paris. C'est une œuvre verticale, une des dernières de la période bleue. Y apparaît, centrée dans le tableau, détachée sur un fond presque uni, une femme plutôt âgée, le corps de trois quarts, le visage de face, le haut de ses cheveux gris dissimulés sous une capuche ou un châle bleu nuit. Les pommettes sont rehaussées de quelques touches rosées et une perle d'oreille manifeste un certain soin de soi. La houppelande qui se reforme sur le corps accentue le triangle général du sujet dont la silhouette s'inscrit d'une façon aiguë dans la composition. Le visage bleu et rosé et gris s'est circonscrit, lui, dans l'ouverture des vêtements qui forment un losange très marqué, accentué au sommet par le pointu de la capuche et au bas par l'ouverture du col. Un sourire énigmatique, désabusé peut-être, flotte sur son visage. La forte arcade des sourcils s'évase sur un front haut dans la prolongation d'un nez élégant. Sous leur arche, deux yeux sagaces observent le peintre et son regardeur. Son œil droit est couvert d'une taie, une infirmité qui la rend borgne, probablement ou presque, et son regard concentré malgré tout vous observe, provoquant un passionnant malaise. Cette figure assez hiératique, presque inquiétante, a une puissance allégorique. Certes, c'est la mère Maquerelle d'un bordel de Barcelone, mais c'est aussi dans son costume sacerdotal de veuve noire, la sorcière, celle qui offre le plaisir et la mort, la volupté et l'illusion des sens, et son regard monoculaire nous conduit de la vue à la voyance en une symbolique magique de la peinture et du destin.
Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure que celle du peintre. Il marche, il glisse en équilibre sur la corde raide. Une courbe l'entraîne à droite, une tache l'entraîne à gauche. S'il rate son rétablissement, tout bascule, tout est perdu. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée paradoxalement en accumulant les noirs.
Séchas, nous entendions Georges-Henri Clouzot évoquer Picasso à l'occasion de la réalisation de ce film inouï, Le mystère Picasso, où l'on voit Picasso peindre sur une glace pendant 20 minutes, le temps du déroulement de la bande. Et il dit, mais que se passe-t-il dans la tête du peintre ? Donc je ne vais pas vous demander ce qui se passe dans votre tête, vous qui êtes peintre également, mais lorsque Picasso peint la Célestine, est-ce qu'en regardant le tableau, vous devinez ce qui se passe dans sa tête du point de vue de la peinture ?
Écoutez, voilà, il y a quelques années que je n'avais pas revu le tableau. Là, je viens de me promener dans les salles du musée et donc je suis resté encore assez longtemps devant. Voilà, donc cette œuvre assez fascinante me conduit à réfléchir à l'ensemble immédiat de l'œuvre de Picasso. Ce qui est la première chose que je pense, puisque je ne l'avais pas revue en vrai, c'est que je suis allé la chercher sur les livres, évidemment, et par exemple sur Internet, et j'ai tout de suite pensé que c'était un véritable défi pour l'imprimeur ou pour le chromiste, parce que à chaque fois ce bleu est de tonalité légèrement différente, et voilà, donc je l'ai revu et j'ai fait cette constatation un peu bête: elle est vraiment très bleue.
Mais en fait pas tellement. Mais les joues sont un petit peu roses, voilà. Elle est maquillée.
C'est ça qui est très étrange, elle est d'autant plus bleue qu'il y a d'autres légères couleurs, notamment sur les joues, qui apparaissent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça me semble, la Célestine, être peut-être le dernier grand tableau classique européen. C'est comme ça que je l'ai ressenti là, en le revoyant. Seulement, il est bleu. Donc, c'est quand même très, très étrange de voir un tableau qui est peint vraiment presque comme... on parle de toutes les influences qui se stratifient sur ce tableau, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à même un Franz Hals, par exemple, dans la façon dont la touche est posée. Par exemple, on n'a qu'à regarder ces détails extrêmement réalistes. On sait que Picasso adorait cette période réaliste, par exemple les Lenin, les frères Lenin, etc. Cette touche extrêmement précise, finalement, assez peu expressionniste dans ce tableau, comparativement à d'autres tableaux de la période bleue. Voilà, il me semble assez exceptionnel à plus d'un titre, même dans la période bleue. Voilà. Dans un premier temps sur cette Célestine.
Laurent Lebon, sur cette Célestine, on sait pas mal de choses, mais néanmoins, il est bleu certainement. Ce bleu de la période bleue, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce venu? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, il est bleu, mais comme l'a rappelé Alain merveilleusement, il y a cette nacre de la perle et ses joues roses. Donc c'est vraiment le dernier grand tableau de la période bleue. Mais il ouvre le rideau de la modernité. Les demoiselles d'Avignon sont derrière. L'art nouveau ondoyant de quelques grands chefs-d'œuvre de la période bleue a disparu. Et là, on a la Célestine frontale avec cet azur bleu tout sauf clin. Et donc, évidemment, c'est 3 ans qui s'illuminent avec ce regard. Au fond, comme l'ont dit beaucoup avant nous dans cette émission... C'est un peu l'allégorie de la peinture.
Alors, c'est une entrée donc, dans une autre peinture. C'est ce que je comprends lorsque vous parlez de cette Célestine. C'est une peinture qui est moins dans le pathos, dans l'émotion que les peintures précédentes. Elle est plus hiératique. C'est une sorte d'apparition. Vous dites que c'est une allégorie de la peinture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je pense tout simplement que, comme souvent avec l'œuvre de Pablo Picasso, tout se joue dans le regard. Et alors, avec la Célestine, quel regard? Puisqu'au fond, elle ne nous regarde pas. Elle regarde derrière nous. Et puis, cet œil avec cette taie restera sans doute ce voile extraordinaire. Je me souviens vous avoir entendu autrefois, vous avoir vu beaucoup de choses dans le regard de certains tableaux, notamment au Louvre. Je crois qu'avec Picasso, là, on a vraiment un des grands chefs-d'œuvre de ce regard. Et l'artiste lui-même. Souvenons-nous de toutes ces photos. Nous sommes juste à côté de ce... panorama extraordinaire de David Douglas Duncan. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces photos de ce génie photographique? C'est le regard intense. Et je pense qu'au fond, il y a une sorte d'aller-retour entre Pablo et la Célestine.
Très curieux, la place que vous donnez si importante à la Célestine. Je pensais que c'était une conclusion parmi d'autres possibles de la période bleue. Vous lui donnez une majesté, au fond, très particulière. Alain Séchas, vous ressentez cette majesté de la même façon? Vous dites que c'est le dernier grand tableau de la peinture occidentale.
Oui,
vous expliquez, c'est
oui,
quand même une affirmation.
Ce qui m'intrigue, justement, c'est dans cette fameuse période bleue, elle est assez atypique, puisque... Il s'agit presque d'un portrait, un grand portrait classique et aussi un portrait assez scientifique. D'ailleurs, je suis assez étonné du titre, du double titre. Voilà, il suffit qu'on parle de la Célestine pour que je me rappelle qu'il y a d'un côté la Célestine, de l'autre côté la femme à la taie, terme assez énigmatique voilà. Dont on se rappelle, la tête.
La tête est, pour nos auditeurs, la tête est aïeux, voilà, qui fait allusion aïeux, à cette infirmité qu'elle a sur l'œil. Une partie de l'épithélium a dû être...
Voilà, c'est une espèce de grosse cataracte, en quelque sorte, qui rend cet œil assez vitreux. Voilà, donc c'est assez étonnant d'avoir voulu, alors qu'il entame quelque chose de très décisif avec la période bleue, je ne sais pas si on se souvient tous ces mendiants au bord de la mer, etc. C'est pas seulement des personnages miséreux, etc. C'est aussi des corps complètement anguleux qui reprennent parfois exactement l'angle des châssis. Voilà, c'est déjà tout le Picasso moderne, entre guillemets, qui est là. Et curieusement, cette Célestine, on ne peut pas du tout parler de retour en arrière, au contraire, mais c'est quelque chose de... On a l'impression qu'il a investi très puissamment, alors à tout point de vue. On peut parler aussi de du fameux autoportrait qui est quasiment son pendant, déjà
qui,
d'un point de vue positionnement.
Qui est accroché très près donc, voilà, dans la salle voisine, qui est un tableau exactement. Extraordinaire aussi.
Voilà. L'autoportrait plus expressionniste en bleu. Peut-être, voilà, le fameux autoportrait en bleu.
Alors plus malheureux, si je puis dire. Il est d'une grande mélancolie, alors qu'il n'y a pas de sentiment mélancolique dans la Célestine. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Lebon ?
Un petit peu tout de même, c'est pas la gaieté de vivre, on n'est pas dans la période d'Antibes, hein. Mais effectivement on sent quelque chose de différent.
Voilà. Il y a plus de puissance que de mélancolie tout de même, il y a plus d'inquiétude.
C'est ce que disait Alain à l'instant, effectivement c'est un portrait très différent, beaucoup plus hiérarchique, plan, l'ondoiement post-art nouveau a disparu et on a là une majesté... Alain nous a lancé sur cette piste. Je crois que la titrologie est maintenant devenue presque une science en soi dans le domaine de l'histoire de l'art. Et avec Picasso, je crois qu'il n'y aurait pas trop de plusieurs thèses comme dans beaucoup d'autres sujets. La Célestine, sauf erreur, a été donnée comme titre bien tardivement à Picasso, pratiquement une vingtaine d'années après la création de l'œuvre. Et ça y est, on y est. La tension entre le singulier et le général, la mythologisation, si je puis me permettre, le barbarisme, c'est vraiment donner le nom d'un personnage littéraire à cette extraordinaire femme individuelle dont on oublie toujours que le nom est inscrit sur le châssis.
Et donc la Célestine, effectivement, est un personnage littéraire. Vous y reviendrez peut-être tout à l'heure, Laurent Lebon, parce qu'il est issu d'un chef-d'œuvre espagnol.
Fernando de Roras, 1499, nous y sommes. Voilà. L'entremetteuse
et aussi la sorcière. Attendons quelques instants pour développer cette question et écoutons d'ici là un extrait d'un des premiers textes que consacre Apollinaire à Picasso en 1905. Et ensuite, nous entendrons brièvement une archive de Canveller, le célèbre marchand qui connut Picasso très tôt au micro de Paul Chavas en 1961.
Enveloppé de brume glacée, des vieillards attendent sans méditer. Car les enfants seuls méditent. Animés de pays lointains, de querelles de bêtes, de chevelures durcies, ces vieillards peuvent mendier sans humilité. D'autres mendiants se sont usés à la vie. Ce sont des infirmes, des béquillards et des bélitres. Ils s'étonnent d'avoir atteint le but qui est resté bleu et n'est plus l'horizon. L'espace d'une année, Picasso vécut cette peinture mouillée, bleue comme le fond humide de l'abîme, et pitoyable. La pitié rendit Picasso plus âpre. Les places supportèrent un pendu s'étirant contre les maisons au-dessus des passants obliques. Ces suppliciés attendaient un rédempteur. La corde surplombait, miraculeuse. Aux mansardes, les vitres flambaient avec les fleurs de fenêtres. Dans des chambres, de pauvres artistes peintres dessinaient à la lampe des nudités toisonnées. L'abandon des souliers de femmes près du lit signifiait une hâte tendre. Le calme vint après cette frénésie. Guillaume Apollinaire. Méditation esthétique, les peintres cubistes.
Dans mes pérégrinations dans les rues du quartier, qui alors était le quartier de la peinture, à savoir la rue Lafitte et la rue Pelletier, j'avais vu des œuvres de Picasso à deux devantures. À la devanture de Vollard, rarement, car rarement Vollard mettait quelque chose en devanture, mais très souvent à la devanture d'un petit marchand qui s'appelait Clovis Sagot. Ces œuvres m'avaient intrigué, mais je ne savais trop qu'en penser. C'était des œuvres presque toujours monochromes. Il y en avait dans des tonalités bleues et d'autres dans des tonalités roses. Tout cela me paraissait assez anachronique, car pour moi, à cette époque-là, c'était la couleur qui était le problème principal de la peinture, la couleur telle que la traitaient les fauves.
Alors Alors nous entendions Kahn Veller parler de la couleur, Alain Séchas, telle que la traitaient les fauves. Au fond, le tableau que nous regardons est effectivement quasiment simultané du fauvisme, quelques mois près. Et vous insistiez tout à l'heure sur ce caractère bleu, c'est-à-dire ce caractère monochromatique, cette façon de faire flotter un objet à l'intérieur d'un contexte atmosphérique général de la même couleur que son sujet. Au fond, qu'est-ce que ça change en peinture de faire un monochrome comme le faisait Picasso à cette époque-là? D'ailleurs, le mot n'est peut-être pas juste, monochrome.
Je ne sais pas si le mot monochrome, on l'employait autant qu'on l'a employé dans la deuxième partie du siècle, mais bon, il existait en tout cas. Non, ben, voilà, c'est après, là, évidemment, et le terme et la technique se développent de différentes façons. Moi, je pensais à ce fameux bleu indigo, bleu de Prusse, je ne sais pas, c'est venant de la photographie, principalement. Il y a eu les cyanotypes, comme son nom l'indique, le bleu de cyan. Je pense que le génie de Picasso a été d'être une éponge par rapport à tous les éléments de sa contemporanéité. Et je pense que la photo lui a rendu un...
C'est vrai que les cyanotypes, donc c'était photographie à dominante bleue, donc créer une sorte d'achromie plutôt que de monochromie, une sorte d'achromie dans laquelle baignait une sorte d'irréalité particulière. Voilà. Et il n'est pas impossible que la photographie, effectivement, ait une influence sur cette vision. On la traite en général, on dit plutôt que cette influence est d'origine psychologique suite au suicide de son meilleur ami, donc Caseramas, qui était un amoureux désespéré d'une jeune femme. Est-ce que, Laurent Lebon, cette explication biographique est suffisante pour expliquer ce passage au bleu?
Rendons hommage à Pierre Dex. C'est lui qui a proposé cet éclairage psychologique et je crois qu'il est tout à fait juste. C'est vraiment, parfois il y a eu quelques tentatives de relier ça à des raisons de circonstances spatiales ou des raisons de lumière ou des liens avec les tirages photographiques, mais c'est vraiment d'abord cela, c'est Picasso lui-même qui le dit, comme vous l'avez rappelé, que c'est grâce, on peut le dire, et non pas à cause de la mort de son ami que s'ouvre cette période extraordinaire, dont d'ailleurs le tableau a été légèrement changé dans la datation, puisqu'il a longtemps été daté de 1903 et en fait plutôt de début de 1904. C'est aussi, vous l'avez redit merveilleusement en introduction, ce grand basculement de Barcelone à Paris. Voilà, c'est aussi pour ça que
c'est parce qu'on parle du bleu de Barcelone, en fait, souvent pour la période bleue, et ce tableau, effectivement, est le dernier fait à Barcelone avant son arrivée définitive à Paris, et au fond, en étant avec cette Célestine, il arrive sous un signe magique, et ce qu'il va sans cesse ordonner dans son œuvre. C'est pas pour me déplaire, en effet.
La sorcellerie.
La sorcellerie m'inquiète, mais Picasso, passionné par ces grands exorcismes, dont on dit souvent que les Demoiselles d'Avignon sont un tableau d'exorcisme, avec des peurs assez voisines de celles que cette maquerelle et que cette sorcière, la Célestine, donc, provoque.
Il y a un Picasso magique, hein, c'est pas un hasard si André Breton en a dit beaucoup aussi sur la question. Je crois qu'il faudrait peut-être une expo de Jean de Loisy sur le sujet. Voilà.
Qu'en pense Alain Séchas du Picasso magique? Est-ce qu'il serait déjà perceptible dans cette partie-là de son œuvre?
Oui, je crois, mais je ne sais pas. J'aimerais faire entendre, continuer un peu sur le terrain de la couleur, puisqu'on a, tu me parliez de ça. Picasso a été, dans sa formalisation au cours du siècle, a été adepte des diverses monochromies. Quand il fait Guernica en noir et blanc, c'est parce qu'il y a les coupures de journaux qui sont en noir et blanc. C'est la matière papier journal noir et blanc qui le pousse à la monochromie.
Entend effectivement Gertrude Stein parler de la façon dont il peint lorsqu'il fait son portrait, c'est du gris et encore du gris et du brun et encore du brun. Donc la monochromie, effectivement, ou l'achromie est très souvent dans son travail.
Il en a eu l'intuition, mais en même temps, il y avait déjà des gris de Puy de Chavannes, des gris verts bleus cézanniens qui l'ont bien entendu influencé.
Huysmans, à cette période-là, le savez-vous, souvent associait, enfin parlait de l'indigomanie à propos des artistes modernes qui étaient parfois sous l'influence du bleu de Prusse d'Okusai, parfois sous l'influence du Van Gogh de l'église d'Auvers, que vous connaissez bien, Laurent Lebon. Et donc l'indigomanie était devenue un symbole de ce qu'était la peinture moderne de l'époque. Est-ce qu'il serait possible que Picasso, en dehors de cette éventualité que vous suggériez à la Séchas quant au cyanotype, l'influence de la photographie et des cyanotypes en particulier et leur bleuissement, est-ce qu'il serait possible que Picasso ait voulu là manifester son intérêt et son adhésion à l'idée de l'avant-garde?
C'est pas impossible qu'effectivement, Alain, vous l'avez merveilleusement dit tout à l'heure, soit ce tableau et soit à la fois classique, mais en même temps, comme j'essaie de le dire très mal, c'est aussi le rideau de la modernité. Ce voile, cette mantille qu'on voit beaucoup mieux depuis que le tableau a été restauré, car on a oublié de le rappeler, mais l'histoire de ce tableau est aussi extraordinaire.
Hein. Dites-nous en quelques mots.
Oh, bah c'est une histoire magique. On doit à notre ministre Jack Lang, hein, l'entrée dans les collections publiques nationales, puisqu'il avait constaté qu'il y avait très peu de tableaux de la période bleue. On l'a rappelé tout à l'heure, notamment l'autoportrait, hein, de 1901, qui est à quelques mètres. Et donc, la faiblesse dans les collections publiques nationales a entraîné cet échange extraordinaire, hein, puisque pour permettre le départ des Noces de Pierrette, le propriétaire du tableau des Noces de Pierrette a acquis la Célestine. Célestine qui était longtemps restée d'ailleurs dans la collection de Pablo Picasso avant qu'il la cède dans les années 30. Voilà, et c'est son homme d'affaires, Pellecker, qui avait gardé ce tableau. Voilà, donc on a oublié ce grand moment, mais on est à la fin des années 80, mais c'est peut-être le dernier grand tableau rentré dans les collections publiques nationales par ses voies extraordinaires.
Et lorsque l'on regarde ensemble ou à côté, il suffit de passer d'une salle à l'autre pour voir l'autoportrait de Picasso qui est quelques mois auparavant, je crois, et la Célestine.
Quelques ans, 1901, trois ans.
1901, l'autoportrait de Picasso, malheureux, présenté barbu, le col relevé, le froid, une idée de la pauvreté, qui le fera d'ailleurs repartir à Barcelone parce que la vie était dure. Il partageait très, très vite, je crois, aussi ses appartements ou ses petites chambres avec des amis, et en particulier avec des poètes, Max Jacob, entre autres. On sent une évolution très forte entre ces deux tableaux de la même période, presque du même format.
Ah, je crois qu'il y a vraiment une révolution entre les deux tableaux. Hein. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, derrière la Célestine pointe l'optimisme, pointe surtout la tentation de l'universel. L'autoportrait de Picasso, excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte, reste un autoportrait. Fernando de Rojas est présent dans la Célestine. Et finalement, on passe du singulier au général. Cette mythologisation que j'abordais tout à l'heure est vraiment au cœur de ce projet. Au fond, on vise à l'universel avec la Célestine.
Alain Séchat, je vous vois hocher la tête, vous approuvez
Oui, tout à fait. Pour continuer sur ce qu'a pu penser Picasso, les tableaux, puisqu'il s'est tout le temps nourri de tableaux, j'ai pensé aussi, en réfléchissant à ce double titre, pour revenir à, d'un côté, la Célestine, qui est justement un titre purement littéraire. Laurent Lebon dit qu'en effet, le titrage est venu plus tard, mais je pense que le personnage de l'entremetteuse est éminemment connu des Espagnols et de la culture espagnole. Et puis de l'autre côté, ce terme scientifique et cette étrangeté, voilà, c'est ce qui nous intrigue, c'est qu'il a choisi quand même, c'est pas seulement que c'était une voisine tenancière de bordel, c'est qu'il a vraiment choisi de faire ce personnage. J'ai pensé aux portraits médicaux de Géricault, notamment la fameuse folle de la Salpêtrière, voilà, pratiquement le positionnement est pareil, la forme de la bouche, la forme du front, la coiffe, c'est assez extraordinaire. Et il y a un aspect, voilà, chez Géricault, profondément complètement scientifique, cette volonté de...
Il s'intéressait aux monomanies, essayait de montrer, voilà, les types de folie, l'hystérie à l'œuvre, c'est au fond...
Je ne peux pas m'empêcher de retrouver ça dans ce... C'est un aspect extrêmement descriptif, et ce qui fait le départ complet avec l'autoportrait qui est presque expressionniste.
Alors ce qui est vrai,
mais c'est profondément maladif aussi. Parce que je crois que c'est un des rares portraits, parce que c'est le portrait en permanence de Pablo, mais c'est un des rares portraits aussi creusé, aussi maladif, aussi blanc, où les poils de barbe sont rajoutés après, à sec. Enfin, c'est très intriguant.
Apollinaire dit effectivement une figure ambiguë empreinte d'une profonde morbidesse, ça.
Voilà, hein,
donc c'est un mot quasiment inventé, mais qui est magnifique. Et il reviendra, Laurent Lebon, sur le personnage de la Célestine à de nombreuses reprises. Je crois qu'il y a une série de gravures extrêmement célèbres qui s'appelle les 347, un moment de virtuosité inouïe. Et parmi ces gravures, plus d'une soixantaine, je crois, sont consacrées à la Célestine.
Il reviendra en tout cas une fois spécifique, hein, c'est en 1968, et on a la chance dans la nouvelle exposition inaugurale, excusez-moi de parler 5 secondes du musée, d'avoir une évocation de cet atelier de gravure avec Crommelinck. Et là, on a cet extraordinaire ensemble de plaques gravées qui ont été reconstituées comme une sorte d'assemblage où on voit effectivement les 70 plaques de cuivre. C'est assez magique. Et en face, la planche qui en a été tirée. Et effectivement, c'est le retour. Mais cette fois-ci, c'est le retour directement au personnage de la Célestine qui joue sur chacune de ces plaques. Et c'est sans doute, on l'a oublié, mais un des plus beaux livres illustrés du XXe siècle.
Alors, je vous propose, Laurent Lebon, d'écouter à présent une description de la Célestine par Bernard Hervé, qui lit un texte de Patrick Grainville, l'écrivain. Et c'est extrait du Matin des musiciens de Marc Texier en 88. Et ça sera suivi d'un nouveau extrait d'Apollinaire, évidemment.
Célestine n'est pas une aïeule sereine. Elle n'est que négation campée dans le bleu polaire. L'œil gommé et aveugle tranche sur l'œil noir, désenchanté, secrètement accusateur, ce qui prête au visage cette dissymétrie que Picasso poussera à l'extrême dans Les Demoiselles d'Avignon. Œil mort d'avoir trop vu, œil de vieille maquerelle qui a sondé l'inanité de tout, comptabilisé tous les désirs, toutes les convulsions et marchandé la chair. Elle sait que le râle du plaisir est déjà celui de la mort, que l'œil du jouisseur est déjà un œil mort. Célestine enterre les moribonds, les armées du plaisir. Son œil est un cimetière de spasmes, la concrétion de milliers d'yeux de jouissance et d'agonie venus avorter et se sédimenter dans la taie de son œil aveugle. À la contempler longuement, vous verrez, Célestine se déploie, grandiose, comme la déité du néant amer. Divinité sans amour, sans pitié, vieux ventre mort, bouche morte, œil mort. Atroce vérité, au-delà de toutes les illusions, de toutes les religions de la mer.
Le goût de Picasso pour le trait qui fuit change et pénètre et produit des exemples presque uniques de pointes sèches linéaires où les aspects généraux du monde ne sont point altérés par les lumières qui modifient les formes en changeant les couleurs. Plus que tous les poètes, les sculpteurs et les autres peintres, cet Espagnol nous meurtrit comme en froid bref. Ses méditations se dénudent dans le silence. Il vient de loin, des richesses de composition et de décoration brutale des Espagnols du XVIIe siècle. Ceux qui l'ont connu se souviennent de truculences rapides qui n'étaient déjà plus des essais. Son insistance dans la poursuite de la beauté l'a dirigé sur des chemins. Il s'est vu plus latin moralement, plus arabe rythmiquement. Guillaume Apollinaire, 1905.
Monsieur Salvador Dali, on affirme souvent que vous êtes l'un des deux peintres les plus célèbres au monde. Êtes-vous de cet avis?
Je suis absolument persuadé que je suis le plus important de tous en ce moment.
Et que pensez-vous de Pablo Picasso?
J'ai très souvent exprimé d'une façon très catégorique que je considère que c'est, après moi, le plus grand génie qui existe, mais c'est un génie de type opposé au mien, c'est-à-dire c'est un génie destructif, hétérogène et anarchiste, tandis que mon génie à moi, est de plus en plus près de ceux des anges.
Alain Séchasse, vous entendez le génie destructif dont qualifie Picasso, Salvador Dali. Effectivement, Picasso dit à un moment donné « Mes œuvres sont des sommes de destruction ». Ce thème de la destruction en art est quand même quelque chose de très important. Est-ce que ça l'est pour vous, par exemple?
Comme Picasso, certainement par période. Je pense qu'un artiste ne cesse de détruire ses périodes précédentes et de remettre sur le tapis les choses, les éléments. Oui, bien entendu, les modes de constitution d'une œuvre, la destruction en fait partie, ne serait-ce que dans la promenade dans le musée Picasso, on se rend compte de la variété extrême des techniques. Et quand j'entends le mot destruction, je pense aux instruments qui recouvrent par moments ou au contraire qui grattent pour constituer ces images totalement différentes du point de vue forme. Et pourtant, on s'y retrouve à chaque fois. On retrouve le lien Picasso. Il l'a dit souvent, d'ailleurs, on me reproche de détruire moi, la période précédente et de changer tout le temps. Voilà, donc je pense qu'il avait acquis cette liberté. Et c'est étonnant d'ailleurs de parler de destruction à quelqu'un qui a fait plusieurs milliers d'œuvres. Il a accumulé les œuvres, mais dans le grand sens du terme. C'est un véritable arche. Et parler en même temps de destruction est tout à fait étrange.
Laurent Lebon, c'est une très bonne remarque que fait Alain Séchas. Évidemment, nous sommes ici dans le musée Picasso que vous présidez. On dit que Picasso est l'extraordinaire destructeur et réinventeur de sa propre peinture, mais probablement d'une grande partie de la peinture des périodes précédentes et de ses amis. Est-ce que nous sommes ici dans le musée de la destruction, et pourquoi ce paradoxe entre vouloir ainsi détruire les choses et vouloir conserver à ce point les traces de cette destruction, puisqu'il y a un patrimoine immense rassemblé ici?
Quel beau paradoxe que celui du musée. Au fond, je vais répondre un peu en dada. Je crois qu'il y a un peu de Picasso en dada et de dada en Picasso. On leur a fait le même procès, soi-disant dada, mouvement destructeur, mouvement nihiliste. Et au fond, rien de tout cela n'est vrai. C'est la production, l'effervescence. Mais simplement pour créer, bon, il faut détruire. Il faut avoir un socle académique. C'est le cas de Picasso, c'est le cas de tous les dadas. Et un peu rapidement, comme souvent avec l'œuvre de Picasso, on en est réduit à quelques préjugés. Et je crois que la réponse du musée, modeste, car Picasso nous dépasse, c'est de nous prendre un coup de poing dans la figure. Dans chaque salle, c'est un choc. C'est 5 niveaux où finalement, on sort de là en se disant « c'est difficile d'être artiste ». J'aimerais poser la question à Alain Séchas. Et au fond, peut-être que notre ami Picasso n'est pas un si mauvais artiste contemporain que ça en cette semaine de la FIAC.
Alain Séchas,
c'est ça qui est terrible, c'est qu'il a tout fait.
Est-ce qu'il vous est contemporain?
En même temps, c'est complètement ridicule de dire ça, il a tout fait, puisque la peinture continue absolument dans sa dimension actuelle sans aucun problème. C'est bien ça qui est extraordinaire et qu'on voit là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul tableau qui nous rappelle un peintre plus contemporain, et même sur plusieurs générations. Tous les artistes de la même époque que Picasso, enfin de la même époque, ont repris à chaque fois un des éléments de Picasso. Et encore maintenant, on pourrait citer une dizaine d'artistes qui jouent au premier ou au second degré avec Picasso. Donc c'est tout à fait stupéfiant. Voilà, donc c'est assez étonnant que Picasso soit à la fois un souvenir d'enfance et une actualité parfaite. Voilà,
pour vous voulez dire?
Oui, oui.
Voilà, c'est un souvenir d'enfance parce que vous avez été bercé par ce nom, j'imagine, comme tous les adolescents, tous les enfants.
Oui, oui, mais je pense que...
Mais est-ce qu'il vous est contemporain? Est-ce qu'il est contemporain de votre réflexion, de votre travail? Est-ce qu'il vous engage? Ou est-ce que c'est un artiste du passé?
Très simplement, sur ce qu'on revoit là des tableaux et de l'accrochage, il nous semble parfaitement contemporain. Dans cette façon, bon, voilà... Pour parler d'une période qui me tient particulièrement à cœur, la reprise des tableaux, quand il reprend les Ménines ou les Femmes d'Alger ou l'enlèvement des Sabines, voilà, c'est quand même un mouvement parfaitement contemporain qui préfigure le modernisme et le postmodernisme d'une certaine façon.
Voilà. Laurent Lebon, qu'est-ce que peut faire un musée comme le vôtre pour préserver cette contemporanéité de Picasso?
Puis-je me permettre de vous reprendre, c'est votre musée, c'est pas le mien, c'est le musée de la nation, je crois qu'il faut le rappeler tout simplement. Picasso nous dépasse, son œuvre aussi, nous ne sommes que des passeurs. Peut-être qu'on va rebaptiser le musée le palais de Picasso. Je crois que c'est un lieu qui serait peut-être à faire de beaux dialogues avec votre belle institution du palais de Tokyo. Je crois qu'effectivement sa force contemporaine est prégnante et je crois qu'il nous faut des regards contemporains. Pas forcément des artistes contemporains invités, je crois que c'est quelque chose qui se fait merveilleusement dans beaucoup de monuments historiques ou d'autres musées. Ici, je crois qu'on a besoin tout simplement de revoir encore la folie créatrice de Pablo. et notamment ce continent immergé qu'on connaît moins, que sont les 200 000 pièces d'archives. On parle beaucoup du socle, hein, des 5 000 œuvres du musée, mais il y a ces 200 000 pièces d'archives qui sont à travailler et à retravailler.
Le travail, vous dites retravailler ces 200 000 pièces d'archives, le travail est fait, non ? On a le catalogue raisonné, des
le
textes,
catalogue raisonné, des centaines Pablo de Picasso livres sont sortis. Le catalogue raisonné de Pablo Picasso n'existe pas. Je pense qu'il faudra attendre encore un certain temps. Non, je crois que c'est une œuvre, et c'est ça aussi qui est fascinant, c'est toujours à regarder à nouveau.
Alors, le grand regardeur de Picasso, l'un des grands regardeurs, qui est un des grands regardeurs de l'invention de la modernité, c'est Guillaume Apollinaire. Nous en parlions tout à l'heure, nous entendions ses textes magnifiques sur le bleu. Il rencontre Picasso vers 1905, amené par un ami poète qui deviendra son secrétaire et qu'Apollinaire fera baron pour devenir son secrétaire, par la force de décision poétique qui lui appartient évidemment. Et Apollinaire va porter un regard passionné jusqu'à sa mort sur Picasso. Les relations entre Apollinaire et Picasso ont été déterminantes pour l'entrée de Picasso dans la modernité ?
Déterminantes, vous évoquiez tout à l'heure mon passage en Lorraine. Nous y avons exposé Parade, ce plus grand Picasso du monde. Peu importe la taille, on s'en moque dans votre émission du matin, du soir, de l'après-midi, de tout temps, comme Picasso. Au fond, il avait choisi ce mot de surréalisme pour cette œuvre, alors qu'elle montre un certain retour à l'ordre. Eh bien, c'est ça la magie d'Apollinaire. C'est cette synthèse, il va mettre des mots sur la magie picassienne, le cubisme, Parade. Il va accompagner son ami. Et je crois que c'est une des plus belles amitiés du XXe siècle, qui va d'ailleurs être célébrée l'année prochaine. Votre émission est précurseuse, comme d'habitude, puisque Apollinaire va être l'objet de grandes expositions à Paris, notamment au musée de l'Orangerie.
Alors Apollinaire, le poète qui accompagne l'artiste, Alain Séchas, est-ce que ce sont des compagnonnages qui existent encore ?
Sûrement. Compagnonnage avec d'autres disciplines, en poésie, en musique notamment.
Vous-même, vous faites accompagner par des écrivains, des poètes, des musiciens. Comment est-ce que ça marche aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est une époque où cela se mêlait plus et vous le sentez moins présent de votre temps ?
Je ne peux pas deviner exactement comment les choses se sont passées. Enfin, c'est une question de... Picasso semblait être quelqu'un de très liant et de pouvoir prendre contact avec toutes les autres disciplines de l'art. Je crois que actuellement, tous les artistes sont liés à la littérature et à la musique tout autant que Picasso avec Apollinaire et Stravinsky.
Alors, ce qui est vrai, c'est que Apollinaire fait rentrer Picasso dans la scène française, d'une certaine façon. Ses amis français deviennent importants et Apollinaire est celui qui fait que Picasso revient pour retrouver aussi cette amitié, cette avant-garde permanente, cette sorte d'effervescence extraordinaire auquel il l'associe. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être évidemment très important, ce sont les Stein. Les Stein vont être ceux qui vont être les premiers à s'intéresser, parmi les premiers en tout cas, à s'intéresser à la période bleue pour Léo, à la suite, au début des Demoiselles d'Avignon pour Gertrude, je suppose. Quel a été le rôle des Stein, Laurent Lebon, à cette période-là ?
Bon, je crois que, comme le résume le titre de votre émission, c'est les regardeurs. Et je crois qu'on ne le dit pas assez souvent, les collectionneurs sont aussi les regardeurs. Il fallait être là à Paris pour aller chercher. Hein. Pensons aussi à Barnes, pensons à beaucoup d'autres, à Guillaume et d'autres.
Le marchand, Stoukine et Morozov, les Russes,
voilà,
bien sûr.
Je crois que c'est effectivement, on ne peut pas résumer ce pouvoir des regardeurs-collectionneurs qu'au Stein. Je crois que c'est vraiment Picasso et magnétique. Magnétique pour ses amitiés littéraires, mais aussi magnétique par rapport à ses collectionneurs. Et au fond, finalement, il a aussi été son plus grand regardeur, puisqu'il a été aussi son plus grand collectionneur.
Exact. Et alors, ce sont les Stein, justement, qui vont faire rencontrer Picasso et Matisse, se faire rencontrer Picasso et Matisse. Chez eux que Picasso va découvrir Gauguin, ou en tout cas va pouvoir voir, approfondir sa relation avec Gauguin, avec Cézanne, avec toute l'avant-garde de l'époque. Et on est dans un moment de mutation. Léo et Gertrude se séparent un peu. L'un préfère la fin de l'impressionnisme, les néo-modernes de l'époque. Et puis Gertrude accompagne l'avant-garde avec la volonté très forte de rupture. Alors maintenant, nous allons, je propose, écouter un texte de Christian Zervos qui a essayé, vous parliez du catalogue raisonné tout à l'heure, Laurent Lebon. Il a essayé de faire le catalogue raisonné
à partir de
1932. Écoutons-le.
À Barcelone et plus tard à Paris, Picasso crée des tableaux émotifs, des appels à la sensibilité. À tout instant, il poursuit jusqu'à l'extrême les pénétrations du sentiment. Les images du monde extérieur font naître en lui des états d'âme, dont les figures fixées par le pinceau sont en quelque sorte la répétition visible, le revêtement nécessaire, afin que tous puissent le ressentir. C'est d'avoir saisi par instinct et non par entendement tous ces êtres d'une condition précaire, au physique ou au moral, que Picasso a pu si bien fixer leurs multiples réactions. L'attention que l'artiste apporte à la description des déshérités et des miséreux est toute de sympathie, d'où la vérité incontestable de ces figures. D'où vient aussi la qualité particulière qui se dégage de ces œuvres. Elles ont le don de faire naître en nous un plaisir spécial que nous ne trouvons pas ailleurs. Par leur charme étrange, ces figures attirent le spectateur et reviennent souvent hanter son souvenir. C'est la période dite bleue. Des filles, des stropias, des couples affamés ou agrafés devant un verre d'absinthe, des aveugles, des maternités douloureuses, des jeunes gens anguleux, des visages émaciés et des corps déformés sont là pour dire des misères d'une humanité en marge de la joie. Quelquefois, des visages apparaissent, empreints d'une subtilité méditative, mais généralement, ce sont des figures ambiguës, touchées d'une profonde morbidesse, plongées dans un sombre dénuement. On aurait pu croire que cette recherche de l'expression conduirait Picasso à la caricature. Ses œuvres restent essentiellement dramatiques et d'un style indiscutable. Tout autre que Picasso serait tombé dans le pathétique ou dans la grimace. Si jeune encore, Picasso a su soutenir le charme de l'anecdote par une qualité proprement plastique. Le changement dans la conception que se fait l'artiste du monde extérieur amène aussi un changement dans sa palette et dans sa manière de peindre. Il passera des tons chauds à la gamme presque froide des bleus grisailleux. Cette tendance au dépouillement de la couleur implique la simplicité dans la manière de peindre. Christian Zervos, Pablo Picasso, 1932.
Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période?
Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. C'est vous personnel, êtes... n'est-ce pas? Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers, c'est comme ça.
Alain Séchas, nous entendions la voix de Picasso avec son très beau phrasé, tellement reconnaissable. C'était en 66, n'est-ce pas, une rare interview télévisée. Picasso, dans sa diversité, sa recréation, sa réinvention de style, la déconstruction ou la brisure de ses styles précédents, a fait quelque chose auparavant que vous continuez à faire vous-même. Se transformer, changer de style complètement. Vous avez été connu pour votre sculpture, maintenant vous êtes connu pour votre peinture. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que la mutation a lieu? Est-ce qu'on a envie de détruire tout de suite ce qu'on a réussi pour passer à la chose suivante?
Question de tempérament, oui, je dois être de ce type d'artiste qui aime un travail de type, comment pourrais-je dire, tuilé. Les choses se superposent, se génèrent l'une l'autre. Oui, il y a un modèle Picasso là-dedans, de détruire la période précédente pour recommencer quelque chose. Bon, voilà, je pense que si on est artiste, c'est principalement pour la liberté. C'est pas un vain mot d'être, de se rendre autonome dans ses réalisations. Voilà, donc c'est vrai que l'idée d'un style fixe ne m'a jamais beaucoup préoccupé. Je pense qu'il ne faut pas... Par contre, dans la diversité des choses, il y a toujours une idée. Je pense que le danger pour un artiste, c'est d'avoir plusieurs idées. Il faut avoir une idée et ensuite, évidemment, la réaliser de la façon la plus multiple possible. Alors, certains le font en compagnie on parlait tout à l'heure d'associations avec des musiciens ou des écrivains. Bon, voilà, d'autres sont plus solitaires dans leur réalisation.
Mais Alain Séchas, ces idées chez Picasso, on va demander à Laurent Lebon d'ailleurs son avis là-dessus, mais les idées d'un artiste, malgré la permutation des styles, malgré l'explosion des sujets, il y a quelque chose qui les réunit, il y a une intention globale. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Lebon ?
Je pense que la phrase d'Alain est vraiment belle. Un artiste doit avoir plutôt une idée que plusieurs. Et je crois qu'au fond, ce qu'a sous-tendu toute l'œuvre de Picasso, c'est justement d'avoir une seule idée, c'est créer. Et se lever le matin, parfois tard pour Picasso, c'était vraiment, je crois, le sens même de son histoire. C'est tout simple à rappeler, c'est une évidence pathétique dans votre émission magique, mais je crois qu'il y a là, au fond, le fondement même. Combien d'artistes ont eu leur période ? Énormément. Combien d'artistes ont tenu toute leur vie ? Très peu. Et là, je crois vraiment que Picasso, sur 70 ans de création, a été toujours là, et c'est ce qui frappe, je crois, dans le parcours du musée.
Alors, il a été toujours là, vous avez raison. Et en même temps, ses regardeurs n'ont pas été toujours là. Il y a eu des moments, je me souviens,
De
la fin, où il a été... on ne comprenait pas.
Décrié par ses propres regardeurs.
Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas compris ? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, on le regarde à nouveau en disant « Mais c'était formidable, pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas aperçu ?» Comment ça marche, notre regard, de ce point de vue-là ?
Cher Jean Loisy, il faut vous retourner la question. C'est vous, le regardeur de l'art contemporain. Pourquoi, à un moment, devant une œuvre, on ne comprend pas ? Voilà, ben je crois que c'est assez magique pour Picasso qui a su convaincre Douglas Cooper, qui a su convaincre tous ses critiques. Et à un moment, là, la peinture est à Avignon et plus personne ne la voit. Il faudra 10, 20, 30 ans pour qu'aujourd'hui on se dise que ces peintures sont aussi extraordinaires que le grand chef-d'œuvre dont nous avons parlé aujourd'hui.
Les peintures du Palais des Papes, elles ont été réacceptées par le public ou par les spécialistes même, hein. Vous dites 30 ans après, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que c'est revenu le regard sur cette période ?
30 ans après, parce qu'encore aujourd'hui à la FIAC, on peut voir de ces peintures accrochées à côté de grandes peintures contemporaines. En fait, il a fallu bien une quinzaine d'années pour qu'on consacre ce dernier Picasso. Et je crois qu'au fond, c'est comme un sismographe. Il y avait à nouveau l'osmose entre la peinture et le moment. Et je crois qu'on n'a pas su comprendre que sur la fin de sa vie, il était encore en avance.
Alain Séchas, vous avez connu ces moments de passion pour votre travail, de silence, de passion à nouveau. On résiste, c'est supportable, c'est dur.
C'est assez insupportable, pour tout dire. Mais parler encore un peu plus de Picasso, je pense qu'à un moment, il y a eu aussi un discours ambiant. Tout un formalisme, par exemple Greenberg, tout un formalisme américain qui a contribué à décrier totalement le dernier Picasso. Voilà, donc on le retrouve dans le cadre du postmodernisme actuel.
Est-ce qu'il n'est pas curieux que le dernier Picasso soit à la fois extraordinairement libre dans la facture, avec une touche et un goût du grotesque parfois, mais qu'en même temps il soit fondé très souvent sur un regard sur les maîtres et la reprise des grands sujets de l'histoire de la peinture. À la fois, c'est grotesque et en même temps, c'est notre histoire.
L'histoire de Picasso au XXe siècle, c'est le XXe siècle de la peinture, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à dire. C'est le fonctionnement social même de la peinture qui a changé. Et ça, il en prend conscience dès la période bleue. Donc, de quoi est-ce qu'il faut parler ? C'est pour ça que tout à l'heure, moi, j'insisterai avec Picasso sur l'inventeur formel. D'ailleurs, c'est ce que je ressens profondément dans ce parcours du musée. Plutôt qu'un parcours affectif, c'est montrer qu'il comprend qu'il faut parler de peinture définitivement. Quand on fait un tableau, il faut assumer le fait qu'on fasse un tableau. Voilà. Ces derniers temps, je me pose la question beaucoup de à partir du moment où on fait un tableau en peinture, il faut que la chose soit réglée selon la construction même du tableau. Et ça, c'est pour les tableaux du parcours du musée, là, sont de véritables leçons de ce point de vue-là. En permanence, on est confronté à de la forme qu'il assume en quelque sorte. Et ça, c'est très important. Je vous parle juste d'un de mes musts, peut-être, du parcours, qui est un tableau qui a été très décrié et très étrange. On parle de ce d'Avignon, que j'avais eu la chance, tout gamin, de voir. D'ailleurs, j'avais été très étonné de voir les tableaux monter les uns sur les autres, sur un grand mur du Palais des Papes. Ça m'avait choqué beaucoup étant gamin. Je voulais parler de Massacre en Corée. Un tableau qui combine toutes les ambiguïtés du siècle de Picasso.
Alors peut-être
et qui a été extrêmement décrié. C'est
pouvez-vous
très
le décrire un petit peu?
Massacre en Corée, qui est un tableau qui date de 1951, qui est construit d'ailleurs très souvent comme beaucoup de Picasso, de façon duel, mais là de façon presque théâtrale, puisque c'est deux groupes de personnages, des massacreurs, ça s'appelle Massacre en Corée. Des soldats armés d'étranges fusils, d'ailleurs floraux. Il faut le voir pour le croire. D'ailleurs, le bout des fusils est un peu comme certains bouquets de Picasso. Voilà, ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces images de 68 avec la fleur au fusil au bout des soldats avec la baïonnette. Enfin, il y a quelque chose à la fois de doux dans ce tableau très, très étrange. Et de l'autre côté, il y a un groupe de femmes. Et là, il reprend absolument tout son monde, même en reprenant des enfants au sol qui sont directement tirés de tableaux de Poussin. Voilà, c'est un tableau qui... Je comprends qu'il est plus l'impact politique de ce tableau. Il combine toutes d'une certaine façon la grandeur de Picasso et aussi vous me posiez la question, qu'est-ce qui continue là maintenant la contemporanéité? Pour moi, le Massacre en Corée est un tableau totalement actuel.
Laurent Lebon, c'est ce Massacre en Corée, c'est très actuel. Ça fait plaisir pour un président de musée de savoir que son musée est très actuel.
Un tableau révolutionnaire, la révolution est en marche.
C'est à la fois le 13 des maillots et l'assassinat de Maximilien, c'est à la fois
Manet. Et c'est un tableau d'une force politique très contemporaine.
Merci infiniment Laurent Lebon, merci beaucoup Alain Séchas. Laurent Lebon, je rappelle que vous êtes le président de cet établissement merveilleux qui vient de réouvrir, qui est le musée Picasso, et qui déjà a suscité l'enthousiasme depuis les quelques jours où ça s'est réouvert. L'accrochage est splendide, le musée est devenu un écrin somptueux. Merci infiniment.
Merci à vous.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous étions au musée Picasso et nous avons observé la Célestine de Pablo Picasso, une huile sur toile de 74 cm par 58, réalisée en mars 1904. Et nous l'avons observé avec Alain Séchas. Merci infiniment Alain Séchas, grand artiste.
Merci à vous pour votre
et le président Laurent Lebon, président du Palais de Tokyo, président du musée Picasso, grâce à Dieu. Je vous signale donc que vous allez pouvoir venir admirer ce chef-d'œuvre au sein du tout nouvel accrochage du musée Picasso à Paris qui vient de réouvrir. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission, Brigitte Masson. Lecture des textes, Miglène Mirtchev. À la technique, Adrien Gazza et Thomas Robin. Sonorisation, Alexandre Jamme. Chargé de production, Didier Sudre. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam. Merci d'avoir préparé cette émission, Sandra, et de Jean Deloisy.
Go until you come, babe. Come until you go, babe. to come for me, babe. Come to go by me, babe. Come to go.